il n'y aura plus de pétrole. On se promènera en carriole parmi les fleurs et feuillages.
Bonjour à toutes et tous, et merci d'être avec nous, et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Il y a eu des débats très très intéressants et essentiels ce matin sur la place, notamment des financeurs venant des énergies fossiles dans l'enseignement supérieur. On va vous parler de deux choses cet après-midi avec Marie, donc pendant une demi-heure, on va diviser ça en deux temps. Moi, je vais vous parler un petit peu de nos activités liées notamment aux banques, d'un point de vue juridique et plaidoyer aussi, parce que c'est une campagne assez historique aux Amis de la Terre. Il y a beaucoup d'actualités avec notamment un contentieux qui vise BNP Paribas concernant son financement des énergies fossiles. Et ensuite, Marine pourra vous parler du volet étudiant de notre campagne, parce que comme vous allez comprendre, c'est extrêmement important pour nous. Ça a été vu comme un axe très important de développement, d'aller dans les facultés pour mobiliser les étudiants au sujet des banques en général, pas juste BNP et pas juste le climat, mais en général. Alors pour compléter un peu le tableau sur notre association, on est une association assez ancienne, on est une fédération internationale, on est présent dans plus de 70 pays, ce qui est très important pour nous dans le sens où on a beaucoup de remontées, de partenaires, dans le sud global notamment, quand il y a des atteintes, il y a des projets, il y a des activités d'entreprise qui sont situées au nord. Ce qui pour nous a énormément d'importance parce que ça va constituer des alertes et ça va surtout nous permettre de documenter, nous forcer aussi à documenter, à investiguer ces atteintes compte tenu que nous sommes basés en France où sont établies beaucoup de ces entreprises-là. Donc on fait du contentieux de manière assez récente mais surtout beaucoup de plaidoyer, d'investigation et de mobilisation de manière historique sur plusieurs sujets qui d'ailleurs sont plus ou moins liés aux énergies fossiles, mais c'est vrai qu'on est très présent sur le sujet agricole, notamment sur les engrais en ce moment. Il faut savoir que les engrais sont liés aux énergies fossiles, idem sur la question de la surproduction. On était très présent sur les questions liées à Amazon, aussi en Alsace, et désormais sur la fast fashion, on essaie de faire passer une loi pour réglementer ces activités, sur les multinationales, qui m'occupent moi beaucoup, et sur les sujets liés à la finance publique et privée. Et c'est là qu'on va s'arrêter un petit peu cet après-midi. Quand je dis finance publique, on parle de soutien public, notamment au développement des énergies fossiles, avec d'un côté une belle victoire il y a quelques années sur l'arrêt des financements export pour les projets portés par des entreprises françaises comme Total, ce qui n'empêche évidemment pas ces projets de trouver d'autres financeurs, mais c'était évidemment un premier pas d'avoir arrêté ces financements publics de la part de l'État français. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux banques ? On s'intéresse aux banques, alors je vais enfoncer un peu une porte ouverte, parce qu'elles évidemment elles sont au cœur du système économique et qu'elles permettent ces projets mortifères de voir le jour, ces activités d'entreprise aussi de se développer. Il y a différents types d'instruments qui sont utilisés par les banques pour soutenir les entreprises. On a évidemment les activités de financement qui sont assez bien connues avec des prêts de manière classique. Alors vous avez des prêts qui sont fléchés liés à certaines activités en particulier. Vous développez un projet en Ouganda par hasard et vous allez avoir une ligne de crédit liée à ce projet-là. C'est le project finance en bon français. Et vous avez aussi tout le corporate finance qui sont les activités non fléchées. Donc ce sont des prêts qui sont donnés à une entreprise. On parle beaucoup de Total. Il faut savoir que Total est une entreprise qui a recours aux deux types de financement, mais que quand les prêts sont non fléchés, Total peut se targuer que ces finances-là peuvent développer la partie renouvelable de son activité. Sauf qu'évidemment, ça rentre dans son bilan bancaire et derrière, on ne sait pas où va l'argent. Donc ça, c'est pour la partie financement. Dans la partie financement, vous avez aussi tout ce qui est lié aux obligations, donc toutes les émissions de titres de créance par les entreprises, qui est essentiel. Et on va en parler un peu plus avec BNP, parce que BNP est un acteur mondial majeur de ce type de financement-là. Donc émissions de titres de créance qui sont ensuite achetés par des investisseurs. Là aussi, ça peut être en lien avec un projet, mais en général, c'est plutôt lié à l'activité en général de l'entreprise. C'est un mécanisme de financement qui est très, très couru aussi. Puis, vous avez toute la partie investissement. Donc là, c'est comment est-ce que les banques investissent en tant que gestionnaires d'actifs en général, donc avec l'argent d'autres personnes. Comment est-ce qu'elles vont l'investir dans des entreprises de secteurs qui sont souvent problématiques. Et vous avez aussi toute la partie conseil. Donc là, je passe parce que c'est des activités sur lesquelles on a assez peu de prise. C'est souvent de gré à gré, on a peu d'informations. Ça va être du conseil à l'émission de titres, l'émission d'actions, les conseils en fusion-acquisition, etc., qui sont très lucratifs pour les banques, mais qui sont assez confidentiels et qui correspondent quand même à une partie moindre du bilan de la banque. Alors, il y a donc ces différents instruments. Donc ça pose problème, évidemment, dans tout un tas de domaines. Hein. On a parlé beaucoup du charbon, on a parlé des industries d'armement, et aujourd'hui, ce qui fait du tabac aussi. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les industries fossiles, l'industrie fossile et les différentes entreprises qui développent ces projets-là ou qui participent à leur développement, en les finançant notamment. Et là, pendant très longtemps, on avait très peu de prise en fait sur les entreprises. Et il y a eu un petit changement en fait de paradigme il y a une dizaine d'années. Pendant très longtemps, en fait, on a eu des normes volontaires pour les entreprises venues de l'OCDE, venues des Nations Unies. Et on sait très bien que ces normes contraignantes, en fait, elles étaient très facilement contournées et surtout, il était très difficile de les actionner pour les organisations de la société civile. Donc il y a eu un petit changement de ce point de vue-là venu de France, parce qu'on a réussi à faire passer une loi en 2017 qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui dite loi Rana Plaza, parce qu'elle ne concerne pas uniquement les activités financières, mais elle est passée notamment suite au désastre, à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, qui responsabilise les entreprises pour toutes les atteintes environnement, droits humains, libertés fondamentales qui ont lieu tout au long de leur chaîne de valeur, notamment au niveau des fournisseurs et des sous-traitants. Et donc pour nous, c'était vraiment, c'est une loi sur laquelle on s'est battu, notamment contre les lobbies qui ont à l'époque essayé vraiment de rétrécir le périmètre d'application de cette loi-là. Et aujourd'hui, on essaie de porter cette loi-là, de l'utiliser comme fondement pour des actions en justice. Alors la première action en justice, c'était l'action au Total Ouganda, dans le dossier ICOP, qui est toujours en cours par ailleurs. Mais on s'est dit, tiens, c'est marrant, cette loi-là, elle mentionne environnement, il n'y a pas le mot climat, mais clairement, elle s'applique à tous les secteurs d'activité. Vous n'avez pas de distinction de secteur d'activité, donc pourquoi pas le secteur bancaire, qui aime pourtant en général se distinguer en disant, mais nous, ce n'est pas exactement pareil, on n'est pas en première ligne, on finance des activités qui peuvent être problématiques, mais ce n'est pas nous directement qui le faisons. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas de distinction sectorielle. Et surtout, le terme climat, en fait, il n'apparaît pas, mais il est évidemment compris dans les termes environnement ou droits humains, comme ça a pu être même confirmé plus récemment par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a lancé ce dossier contre BNP. Alors BNP, c'est pas simplement parce que l'entreprise est située en France. Hein. Il s'agit vraiment d'un des plus gros financeurs mondiaux sur les dernières années des énergies fossiles. Un des trois plus gros, notamment aux majors pétrolières, mais aussi aux entreprises publiques. On pense souvent à Total, à ExxonMobil, à Eni. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui sont des entreprises publiques, comme Saudi Aramco. Il faut savoir que Total est un gros financeur de Saudi Aramco, d'ADNOC, aux Émirats Arabes Unis. Évidemment, BNP est la plus importante banque de la zone euro et la plus importante banque française, même en termes de financement aux énergies fossiles, notamment au travers de financements obligataires et aussi de financements corporate, donc non fléchés. Donc on a lancé ce dossier-là. Il y a eu un peu un alignement de planète, en fait, entre cette nouvelle loi sur devoir de vigilance, qui peut donc concerner toutes les activités de l'entreprise, mais aussi l'état de la science, c'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement du risque climatique, enfin, tel qu'il est défini par les entreprises, comme un risque, et de publications institutionnelles. Il y a eu des prises de position extrêmement claires du GIEC, de l'AIE au niveau de l'OCDE et aussi des Nations Unies, avec un groupe d'experts, qui ont établi qu'en fait, une banque qui continue à participer au développement des énergies fossiles, c'est problématique. Puis, en tout cas, c'est incompatible avec l'accord de Paris, avec une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré. Et donc, en fait, cet alignement nous a amené à lancer ce dossier-là sur le fondement du devoir de vigilance, mais également d'autres fondements juridiques. On pourrait y revenir ensuite, si ça vous intéresse, du préjudice écologique et du quasi-contrat, parce qu'en fait, BNP avait pris des engagements de net zéro, c'est-à-dire d'être neutre en carbone pour 2050. Donc nous, on les prend au mot. On dit, ça, c'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de la société. C'est un contrat, en fait, un engagement unilatéral de volonté. Donc allons voir un juge pour qu'il rende ça définitivement obligatoire. Et donc, on les a assignés en justice. Évidemment, BNP fait traîner la procédure. Mais en fait, ce qui est intéressant, la procédure est toujours en cours. Donc, je n'aurai pas de grandes nouvelles à vous annoncer. En revanche, elle va aboutir parce qu'on a enjambé différents obstacles procéduraux qui feront qu'on aura bel et bien une audience probablement cette année ou début 2026. Le temps de la justice est très long. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que BNP Paribas a réagi depuis. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'annonces qui avaient été faites par une banque comme BNP Paribas avant sa mise en demeure. Mais de manière assez magique, à partir du moment où on les a mis en demeure, où on a lancé le contentieux, on a eu une cascade d'annonces qui sont justement l'arrêt du financement obligataire dit conventionnel. Donc après, ils jouent sur les termes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire conventionnel ? Ça veut dire que derrière, ils peuvent continuer à faire de l'obligataire un petit peu vert, des entreprises comme Total. Mais en tout cas, on commence à voir la banque bouger. Ils ont arrêté le financement de projets aussi. C'est-à-dire que maintenant, ils arrêtent de financer des projets du type ICOP, par exemple, ou le projet Total Mozambique LNG, dont on pourra parler aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'on voit ça comme des victoires d'étape, mais en réalité, on trouve qu'il serait très, très important qu'un juge se prononce sur, sur ces décisions-là. Et de manière très complémentaire, on va le voir avec la campagne, ça s'articule, ça permet de nourrir des moments de campagne. D'un point de vue stratégique, de créer des moments, soit avec les audiences, soit avec les annonces de BNP, ça nous permet de réagir et ensuite de mobiliser un petit peu autour. Donc ça, c'est sur le dossier BNP. Et plus largement, sur nos activités banques, il y a deux activités juridiques, notamment liées au Mozambique. C'est un dossier qu'on suit beaucoup. Je vous parlais de notre réseau international. Faut savoir qu'il se passe des choses atroces au Mozambique, liées notamment à un projet développé ou co-développé par Total, projet de gaz fossile. Dans le nord du Mozambique, où des personnes se font massacrer, séquestrer, en lien avec ce projet-là, où les forces de sécurité payées par Total ne réagissent pas, voire participent au massacre. Et les révélations continuent à se faire. Je vous invite à aller lire les derniers articles de Politico et les révélations aussi relayées dans la presse française dans Le Monde à ce sujet-là. Et donc, ce n'est pas simplement faire des procès liés au climat quand on parle des banques, c'est aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain et comment est-ce que ces banques participent à des projets comme ça. Et donc, Crédit Agricole, qui est un des gros financeurs du projet lié au Mozambique, est aussi une de nos cibles. D'un point de vue juridique et surtout plaidoyer sur de ce point de vue-là. Et voilà, après nous on s'intéresse aussi juste à un dernier truc avant que je laisse la parole Marine sur la partie étudiante, tout le volet palestinien et évidemment ce qui se passe là-bas concerne énormément les financeurs d'entreprises qui participent à l'effort de guerre israélien. Et à nouveau, BNP est une entreprise qui octroie des lignes de crédit ou qui participe à des financements obligataires. Alors, de l'État israélien, déjà, très récemment, à hauteur de 2 milliards d'euros pour les munitions obligataires. Et surtout, vous avez une grosse boîte d'armement qui s'appelle Elbit Systems, dont les armements sont utilisés dans les massacres et qui sont financés par BNP Paribas. Donc, on a une mise en cause de BNP Paribas et d'autres banques françaises, hein, par ailleurs. Ce n'est pas juste pour cibler BNP Paribas, mais Crédit Agricole et Société Générale ne sont pas en reste. Et donc, on voit bien que ces banques-là, en fait, sont mises en cause de manière régulière et que ces luttes-là finissent par se réunir, notamment quand on essaie de mobiliser un petit peu la communauté étudiante.
Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. Parmi les fleurs et feuillages.
Je vais prendre la suite. Donc, moi, c'est Marine, je suis chargée de mobilisation aux Amis de la Terre France. Chargée de mobilisation, c'est quoi ? C'est, là, Marcelin expliquait un peu les campagnes et recours juridiques. Et donc, le taf d'une chargée ou d'un chargé de mobilisation, c'est de construire des opportunités avec l'ensemble de la société civile ou avec des communautés bien identifiées, dans mon cas, la communauté étudiante, pour mener à bien et continuer à porter des revendications concernant nos cibles. Donc là, c'est le cas pour la finance privée, c'est le cas de BNP, Société Générale, Crédit Agricole et la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ce sont quatre grosses banques françaises qui continuent, malgré l'accord de Paris, de financer des projets liés aux énergies fossiles. Et évidemment, Marcelin a aussi également parlé en fait de ces banques qui financent, ça soit des entreprises liées aux colonies illégales d'Israël en Cisjordanie, que ce soit des entreprises d'armement. Pour ça, je vous invite très fortement à lire le dernier rapport qui a été publié par la coalition internationale et le rapport s'appelle Don't Buy the Occupation. Il est sorti il y a une semaine et donc là, vous allez trouver en fait toutes les données relatives aux investissements de ces banques au sein des entreprises du coup impliquées directement. Et donc concernant, enfin je reviendrai plus tard sur le Mozambique. La campagne Stop Banque Polluante a été lancée avec pas mal de collectifs d'étudiants et étudiantes qui avaient commencé à se mobiliser, enfin plutôt les promos intérieurs, sur la question de Total. Comme on a vu, enfin Total, c'est quand même une question assez prenante au sein des universités, au sein des campus, du fait de, enfin, dire du système Total qui est en place. Et donc, par exemple, les mobilisations étudiantes il y a quelques années avaient permis en fait de mettre en lumière le projet ICOP que tout le monde connaît. ICOP, vous voyez, c'est quoi? Ouais, globalement, bah voilà, ça a été vraiment une victoire, une bataille culturelle qui a été menée pour visibiliser ce projet qui se passe en Tanzanie et en Ouganda, où des populations, comme le dit Marcelin, en fait, enfin, nous, on parle de bombe climatique dans notre futur, mais c'est directement au niveau du présent qu'il y a des populations locales qui sont directement impactées et qu'il y a des vies détruites, qu'il y a des expropriations de terres, etc., de par les logiques néocoloniales de notre super, de notre fleuron français qui est Total Energy. Et donc, ces protestations au sein de la communauté étudiante est super sont très importantes puisque ça va nourrir aussi en fait les autres. Enfin, ça va nourrir le travail des ONG, ça va nourrir le travail d'autres organisations militantes, on va dire plus large de la société civile. Et donc, ça va permettre en fait d'attraper chaque petit point, enfin chaque tentacule en quelque sorte de Total pour accroître la pression. C'est pour ça que c'est super important que ça soit dans les universités, que bah, la communauté étudiante se mobilise, qu'elle est rejointe par les enseignants-chercheurs, par les doctorants, par des alumni, et in fine par le personnel administratif. C'est comme ce qu'on a pu voir, tout à l'heure, Marie Miller en avait touché quelques mots, mais en fait, en Angleterre, c'est ce qui s'est passé à Cambridge. À Cambridge, il y avait des étudiants, il y a une contestation de la part des étudiants qui a commencé à monter, qui a commencé à prendre contre la présence de sponsors liés aux énergies fossiles. Dans ces sponsors, on a une banque, on a Barclays, mais on a également BP, on a également Shell. Et donc, il y a un peu moins d'un an, Cambridge a dit « c'est fini, on ne fait plus de partenariat, on n'accepte plus de subventions de leur part ». Il faut savoir que quand même Barclays avait plus de 100 ans de partenariat, donc c'est vraiment un partenariat historique avec Cambridge. Eh ben non, Cambridge a dit c'est fini, vous ne respectez pas les engagements pris lors de l'accord de Paris, vous refusez de communiquer, vous refusez de reconnaître nos revendications et d'avancer dans ce sens-là, et ben du coup on cesse tout partenariat avec vous. Donc ça c'est des engagements politiques forts et ils sont super importants parce que ça vient appuyer du coup tout le travail des ONG et tout le travail des militants militantes qui sont faits à une plus vaste échelle. Et donc nous, on s'est dit, en fait, on va dézoomer le cas Total, puisque quand même le cas Total est très très prenant, est très très présent, et on va s'attaquer directement à un peu le tuyau qui lâche le cash, quoi. Donc les banques. Et ces banques-là sont très très présentes, évidemment, dans l'enseignement supérieur de la recherche, mais plutôt, donc moi ça fait bientôt un an que je travaille dessus. Et je travaille notamment, mais après on pourra en parler par la suite, hein, sur la mobilisation étudiante, mais plutôt avec des écoles d'ingénieurs. Et donc eux connaissent bien ces banques, notamment par la vie associative étudiante. Puisque dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, il y a une très très forte place à la vie des associations étudiantes. Et ces assos étudiantes ont l'habitude de recevoir énormément, quand je vous dis énormément, vous avez pas idée à quel point c'est énorme, de financement de la part de ces banques sans trop de contrepartie, à part peut-être faire un amphi où ils vont s'assurer la présence de 100 étudiants pour pouvoir vendre, pour pouvoir se vendre en quelque sorte. Ou encore, ils ont telle somme, on va dire 3 000 euros, et pour chaque ouverture de compte, ils ont une prime de 50 euros en plus. Donc ça veut dire que les étudiants du bureau des élèves, le BDE, ils vont essayer de chercher un peu leurs potes dans leur promo pour faire ouvrir des comptes et donc accroître l'argent qu'ils peuvent obtenir de la banque en question. Donc ça montre à quel point ces associations étudiantes ont besoin aussi, puisque finalement elles sont dans des routines en termes d'événements, de sorties ou autres avec ces banques. Mais en fait, c'est aussi un truc pas mal pratique, je pense, pour les administrations. Dans le sens que ce sont les étudiants, en fait, qui vont faire les partenariats. C'est la vie associative qui vont faire des partenariats pour, je sais pas, avoir de l'open bar en termes d'alcool, à je sais pas combien l'année, avec ces banques. C'est aussi des associations étudiantes qui, lors de forums de recrutement, vont démarcher ces banques ou ces entreprises polluantes. Tout acte, en quelque sorte, de contestation de leur présence, ça va être fait à l'encontre d'autres étudiants. Donc enfin, il y a aussi un peu cette logique de on va créer en fait une bipolarisation au sein de la promo, et de ce fait certains étudiants n'osent pas trop emmener la contestation parce que tu as peur d'être en quelque sorte renié, ostracisé de ta promotion. Et à partir du moment où ils arrivent à tous se mettre d'accord, donc il y a un consensus qui dit on va pas inviter Total par exemple à notre forum de recrutement, là qu'est-ce qui se passe? L'administration rentre en jeu et dit non, vous laissez Total au forum de recrutement. Et ça c'est des histoires qui commencent un peu à me remonter, et je pense que c'est très, enfin après c'est très intelligent de leur part, et c'est tout à leur honneur de faire en sorte que ça reste dans la communauté étudiante, que c'est eux qui gèrent entre eux les partenariats, etc. Et puis dès que tout le monde est un peu d'accord pour virer tel partenariat-là, là, ça rentre en jeu. Je trouve que c'est très, très intelligent. Ensuite, sur tout ce qui est, du coup, la mobilisation, le but, c'est vraiment qu'on porte des revendications communes avec tous les étudiants qui ont rejoint la campagne Stop Banque Polluante, qui est une campagne du coup de mobilisation qui est présente dans plusieurs campus. Dernièrement, il y avait 12 campus qui ont rejoint la matinée d'action décentralisée qui consistait à dénoncer la présence de telle ou telle banque dans leur campus et de dire bah voilà, nous on n'est pas d'accord. Donc ça met en fait une première brique pour ensuite aller engager un rapport de force, étant donné que vous avez un rapport de force quand même qui est assez incroyable. Vous êtes à la fois de jeunes futurs talents prometteurs pour ces banques et également de futurs clients. Donc franchement, c'est du youth washing qu'ils font sur vous, je pense. Et elles détestent aussi qu'on remette en question leur image qu'elles s'achètent. Enfin, BNP, là, avec la pression que pas mal d'ONG, dont les Aminataires, on a commencé à mettre en place, vous avez bien vu les pubs il y a un an ou deux, BNP, la banque d'un monde qui change. Enfin, franchement, ils essayent en fait d'attirer de nouveaux clients par rapport à ce greenwashing. Et donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Et par exemple, il y a eu une tribune lancée par des étudiants l'année dernière. Donc il y avait 1200, à peu près 1200 signataires, je ne sais plus. C'est 1200 ou un peu plus signataires étudiants de la tribune BNP?
Toujours plus.
Ouais, toujours plus du coup. Donc il y avait plus de 1200 signataires de cette tribune qui a été écrite par des étudiants qui disaient on ne va pas aller faire de stage ni on ne va pas travailler chez vous plus tard. Et bien certains étudiants ont mis des messages sur LinkedIn pour dire voilà, moi j'ai signé cette tribune pour telle et telle raison, BNP, en tant que BNP, je n'irai pas travailler chez vous. Bah BNP n'a pas aimé, et ils ont envoyé des messages privés à ses étudiants, enfin des employés au sein de BNP ont contacté. Donc ça veut dire que ça fonctionne. En fait, que vous avez un rapport de force qui fonctionne et qui est opérant. Donc même si par exemple, on parlait notamment, en fait, on m'avait transmise une question qui aurait dû être posée tout à l'heure, mais manque de temps et tout, mais j'avais travaillé dessus. Et sur est-ce qu'on a des leviers pour inciter ces entreprises, en fait, à changer de comportement, quoi, à répondre aux enjeux environnementaux actuels. Bon, bah, globalement, par l'exemple de Cambridge, on voit que c'est possible, en fait, parce qu'en fait, ça va les mettre un peu dans une impasse. Au bout d'un moment, ils sont vraiment détestés par tout le monde. Et d'un point de vue étudiant, c'est même si c'est bouché le dialogue avec l'administration, bah vous avez aussi une force directe, c'est d'aller directement les voir. Enfin, vous êtes des intermédiaires directs auprès de ces grands groupes. Et donc ça, c'est quand même essentiel. Surtout là, actuellement, bon, du point de vue de la campagne finance privée, on a du coup, Marcelin en a parlé, l'enjeu du Mozambique. Ce qui se passe au Mozambique, donc comme Marcelin l'a dit, c'est des exactions commises en encontre des civils par l'armée mozambicaine aux abords, par l'armée mozambicaine qui a été équipée, payée, logée par Total, aux abords du site de Total, où il y a entre 150 et 200 personnes qui ont été enfermées dans des conteneurs pendant plusieurs mois, pendant 2 à 3 mois. Sur les 250 personnes max, il y a eu 25 ou 26 survivants. Enfin, il y a des choses gravissimes qui sont passées. Il y a un an environ, il y a une enquête au pénal qui a été ouverte suite à une plainte d'un des survivants d'une attaque contre Total. Total refuse même s'excuser, ne le fait pas, juste ne reconnaît pas les faits. Je vous invite vraiment à lire cette enquête sur Politico, également sur Le Monde, ça soit la plainte au pénal ou aussi ce qui est paru il y a 2 semaines sur le fait que Total en fait savait ce qui se passait au Mozambique. Et donc le but aussi, c'est de visibiliser cette lutte qui est menée par des militants au Mozambique et de demander à Total de se positionner, de répondre face à ces accusations. Donc voilà, globalement, c'est, je vais pas m'arrêter de dire que c'est très important, la politisation au sein de, enfin, porter des revendications, demander plus de transparence aussi, comme l'a présenté Mathieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Je le vois notamment dans les écoles d'ingénieurs, où on va avoir tendance à avoir peur de tout ce qui est du politique, mais en fait, enfin, c'est aussi ce qui fait que vous êtes des citoyens, des citoyennes, que vous allez voter ou autre. Enfin, vous êtes dans une université, vous avez totalement le droit de demander des comptes, totalement le droit d'exiger le retrait de tel ou tel partenariat, et ça paye. Enfin, on voit l'exemple de Cambridge, on voit l'exemple aussi de Polytechnique vis-à-vis de l'implantation du bâtiment Total, ou encore de Sciences Po, des étudiants de Sciences Po qui sont mobilisés contre la présence, le partenariat de Total.
Bonjour, merci pour votre intervention. Je ne suis pas étudiant, mais je pose quand même une question. Vous avez une campagne qui s'appelle Stop Banque Polluante, c'est ça ? Est-ce que vous avez des informations à donner sur est-ce qu'il y a des banques qui ne sont pas polluantes, en fait, concrètement ? Et j'ai une deuxième question. Vous parlez beaucoup des étudiants. Moi, je suis directeur adjoint d'un labo et c'est la banque du CNRS, c'est la BNP. Je pense que c'est un secret pour personne. Est-ce qu'il y a des moyens d'action pour est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens d'action pour faire changer cet état de fait qui n'est pas forcément très satisfaisant quand on travaille dans un institut sur l'environnement ?
Alors, pour les banques pas polluantes, alors j'ai plus le nom, peut-être le nom du site de Reclaim en tête. Alors, il y a
changedebanque.fr.
Mais il y a un autre. Non, c'est sérieux. Mais il y a un autre, et je pourrais te le donner tout à l'heure, ce qui décrit, en fait, ce qui note, ce qui fait notation de différentes banques par rapport à des engagements concernant gaz, charbon et donc pétrole aussi. Et je pourrais vous le donner tout à l'heure. Ah oui, mais je ne sais pas si c'est...
Vous avez tout le rapport de BankTrack. Parce qu'en fait, toutes nos actions, elles s'appuient sur des données qui sont produites par des ONG spécialisées dans la production de données et d'analyse. Ils lisent tous les trucs de Bloomberg et tout, ils voient toutes les transactions. Et c'est eux qui font ensuite des classements un peu et qui nous avertissent quand une des banques qu'on a sur notre radar est dans ces transactions-là. Après, sur le site Change de Banque, vous allez voir un petit peu le classement. Il se trouve qu'il y a 4 gros groupes bancaires en France et que les 4 sont mouillés dans ce type de transaction. Après, vous avez des banques qui font moins de banques d'investissement, de banques de financement et d'investissement du type Crédit Mutuel, la Banque Postale, qui arrivent à se targuer d'être moins exposés. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont beaucoup moins exposés parce qu'ils ne participent pas à ce type d'activité-là historiquement. Ils ne font pas de trading, très peu. Et puis bon, après, vous avez le Crédit Coopératif qui est plutôt bien noté, qui fait partie du groupe BPCE, mais qui est un fonctionnement très séparé. Il n'y a pas de solution idéale. Et vous avez la NEF. Vous avez la NEF. Après la NEF, vous n'avez pas encore de solution. Bien, je sais. Mais ça fait longtemps.
Il y a un institut bancaire maintenant, ils sont une banque. Et donc, bientôt, ils vont pouvoir ouvrir.
Et la NEF qui a été lancée avec le soutien des Aminataires à l'époque. Et c'est vrai que depuis longtemps, on attend la création de ce compte courant-là. Et je sais que ça va bientôt être le cas. Et clairement, c'est une solution coopérative. En plus, elle est très, très intéressante. Merci de l'avoir appelé.
Et concernant tout ce qui est donc par rapport à la BNP, bah déjà c'est aussi envoyer une petite lettre à la BNP et de dire est-ce que vous pouvez nous expliquer nous nos revendications, qu'est-ce que vous commencer à initier en fait un rapport de force, un dialogue en disant on commence un peu à se poser des questions, vous n'avez toujours pas inscrit le fait que vous allez arrêter de financer des projets liés aux énergies fossiles ou des entreprises, bien que ça soit des multinationales énergétiques, dans vos politiques internes. Nous on veut que vous les inscrivez, donc là c'est vraiment un dialogue. C'est ce qu'avait fait Cambridge avant. Enfin, avant, c'était plusieurs mois de discussion avec Barclays en disant on veut que vous arrêtiez de financer. Et c'est ce qu'on fait aussi il y a un an environ, les Scouts de France. Et les Scouts de France avaient envoyé des lettres à la BNP, les avaient rencontrés en disant nous, vous n'êtes pas du tout alignés avec nos valeurs, nos revendications. En fait, ça permet de resserrer les taux, en quelque sorte. Enfin, que ce soit la communauté des chercheurs, que ce soit des étudiants, que ce soit les Scouts. Ça embête toujours, et ça embête toujours aussi les salariés qui doivent y répondre.
J'ajouterais juste que le risque réputationnel est réel pour ces entreprises-là. On a appris par exemple l'année dernière que Total, mais BNP aussi, avaient réalisé un petit guide en interne qui s'appelait « Un dîner presque parfait avec BNP ou avec Total ». C'était à destination des salariés avant Noël pour préparer les salariés à des discussions compliquées en famille concernant les projets des entreprises dans lesquelles ils travaillent. quand vous apprenez ça, il y avait eu un article, ça avait fuité dans Mediapart, vous dites que vos impressions sur l'entreprise en fait fonctionnent parce qu'en interne, ça devient très compliqué pour les directions de s'expliquer auprès de leurs collaborateurs. Idem dans les forums de recrutement. Et donc c'est vrai que en tant que client, vous avez exactement le même pouvoir d'aller poser des questions gênantes à des collaborateurs qui eux-mêmes iront les répercuter en interne quand ils ne feront pas leurs chiffres à la fin du mois.
Quand il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole parmi les fleurs effeuillables.